de venir. Seigneur, merci beaucoup pour les ministères que tu as donnés, dont celui de la parole. Et nous reconnaissons chez notre pasteur un ministère dans ce sens-là, que tu l'inspires encore, que tu lui donnes des pensées nouvelles, que ce qu'il va nous partager au niveau des actes des apôtres, particulièrement de ces deux chapitres, puisse être une source d'inspiration pour nous. Nous le bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup.
Oui, nous parcourons les actes des apôtres. Et vous avez peut-être remarqué qu'en lisant les textes et les chapitres au fur et à mesure de la progression de la découverte de ce livre ou de la redécouverte, il y a quelque chose qui colle directement à la paroisse d'Aunay. Et je crois que c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de prendre tous les actes. C'est un grand défi. Il y a quand même 28 chapitres. On avance en général deux par deux, voire un par un. Mais voilà, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire de manière similaire à la taille de la paroisse où chacun a sa place et chacun peut se reconnaître ou doit pouvoir se reconnaître dans ce que je partage ou dans ce que vous lisez. Et donc aujourd'hui, on est dans Actes, chapitre 12 et chapitre 13. Alors vous avez peut-être souri ou rigolé à Actes chapitre 12, surtout lorsque Pierre est délivré de prison il se rend pas tout à fait compte de ce qui se passe, puisqu'il est en train de dormir dans sa prison, il s'est fait arrêter. C'est quand même une période difficile pour l'Église, parce que il y a de la persécution, et un des Jacques, il y en a plusieurs dans les Actes des Apôtres, Jacques, donc pas celui qui a écrit l'Épître ou la lettre à la fin du Nouveau Testament, mais celui qui est le frère de Jean. Le frère de Jean se fait tuer. Vous avez vite vu le verset dans Actes chapitre 12. Et puis comme ça plaît aux Juifs de faire arrêter ces chrétiens, Pierre se fait arrêter. Et lorsqu'il est arrêté, il est mis à Chandolon de l'époque, sous la garde de 16 soldats qui sont là de piquet pour le protéger. Donc on a l'impression qu'il est là dans le quartier de haute sécurité, pourtant c'est Pierre, quoi. C'est quelqu'un comme vous et moi, mais il est comme une menace. Bien sûr, il est une menace pour les juifs religieux qui tiennent en bride le peuple à l'époque, ou en tout cas qui essayent, parce que des gens leur échappent. Et Pierre, donc le leader, l'est arrêté. Et il y a la fête de la Pâque qui est là. Pendant ce temps-là, on ne veut pas faire comparaître Pierre au tribunal, mais il est arrêté. Et puis le lendemain, après les fêtes de Pâques, c'est prévu qu'il soit en comparution, voilà, et qu'on règle son cas, peut-être par la mort, on ne sait pas, comme Jacques. On ne sait pas trop les intentions là, du gouvernement de l'époque. Mais il y a quand même, le texte dit, il est assis dans sa prison et il est enchaîné aux soldats de garde qui sont là. Le méchant Pierre, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ben oui, c'est Pierre. Mais Pierre, peut-être qu'ils l'ont vu prêcher la parole de Dieu, ça entraîne des conversions. Peut-être que les autorités, certainement, l'ont vu réfuter de se soumettre au peuple, à l'autorité religieuse de l'époque, et à être un instrument de Dieu pour le salut des âmes. Et ça, bien sûr, ça plaît pas à l'adversaire et à ceux qui sont remplis de démons. Alors voilà, il est libéré de prison miraculeusement. Il y a une grande lumière qui vient dans sa prison, c'est de nuit. Grande lumière qui est là. Et puis les autres, on a l'impression que les soldats, ils sont endormis, tétanisés. Comme s'ils avaient été ivres. Mais Dieu, en fait, les a endormis. Ils somnolent. Et Pierre, au même moment que l'ange arrive, il entend les instructions de l'ange qui est là. Et les chaînes tombent miraculeusement. Ça, c'est une belle image de la délivrance quand il y a Jésus qui vient. Les chaînes tombent. Amen. Gloire à Dieu. Pierre, la porte s'ouvre, la grosse porte de prison. Elle s'ouvre et il entend la voix. Enfin, tu t'habilles, tu mets tes habits, tu sors. Il passe comme ça les portes et au fur et à mesure qu'il passe, les portes s'ouvrent. Et ce n'est pas des petits portillons, comme un bar de cow-boy. C'est un truc, c'est une prison. Et il sort miraculeusement. Personne s'en aperçoit. Pierre non plus s'en aperçoit pas vraiment, il a l'impression d'avoir une vision et il se retrouve à l'extérieur et l'ange lui dit « il faut que tu continues de prêcher » et il disparaît, comme ça. Et Pierre se retrouve tout seul dans la rue, on va dire que c'est minuit ou 2h du matin, tout seul. Qu'est-ce que je vais faire ? extraordinaire. Hein. Il vient de vivre, il se rend compte de ce qui s'est passé et il se dit, je vais retourner revoir mes frères et sœurs. Il va dans la maison de Marc et Marie, Jean, qui est surnommé Marc. Et puis l'église est en train de prier et il prie à fond. Il frappe à la porte, une servante est là, une employée de maison, elle est là. Et puis, qui est là ? Elle entend la voix de Pierre. Il y a un petit peu de crainte peut-être chez les disciples avec ce qui s'est passé. Qui est là ? Elle reconnaît que c'est Pierre. Et puis, au lieu d'ouvrir, alors que c'est son job, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va vite dire aux autres, il y a Pierre qui est là. Puis les autres, plein de fois, ils louent Dieu. Non, qu'est-ce qu'ils font ? Il dit, t'es folle. Et ils étaient juste avant en train de prier pour que Pierre sorte de prison. Donc, incrédule et plein de foi en même temps. Ça vous rappelle quelqu'un ? Moi, peut-être, vous, peut-être. On prie pour des trucs. Gilles nous a exhortés dimanche passé. On prie pour des choses, puis attention à ce qui sort de notre bouche. Juste après, on dit le contraire dans notre prière. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais Dieu est plein de compassion. Et certainement, il a vu cet épisode. Il a écouté les prières. Il a exaucé les prières. Et voilà, mais ils étaient quand même avec des craintes et des doutes. Bon, voilà, c'est humain. C'est pas une excuse pour douter, mais ça montre un petit peu nos limitations, à vous et à moi, et à eux, à ses frères et sœurs. Peut-être qu'ils nous raconteront ça plus tard quand on les verra là-haut. Alors, c'était comment qu'Hérode vous a dit que Pierre était à la porte ? Alors, bien sûr, Pierre entre, et avec prestance, il fait taire tout le monde, le groupe de prière qui est là, et il raconte ce qui s'est passé. Il le raconte. Et il a une parole pleine de sagesse. Et il dit, parce que apparemment les autres apôtres ne sont pas là, il dit, allez le dire à Jacques. Donc il y a un autre, c'est l'autre Jacques qui était là. Allez le dire à Jacques et aux autres apôtres. Donc voilà, il les commissionne pour quelque chose. Allez faire ça, Pierre est libre. Voilà. Et Pierre, après, il va quitter Jérusalem. Le texte, je crois, dit qu'il va se rendre à Césarée. Donc voilà, c'est sage de ne pas rester à Jérusalem, sinon il risque à nouveau d'être emprisonné. Le Jacques en question, c'est l'autorité référente spirituelle de l'Église de Jérusalem. On va le voir dans Acte 15, dans quelques dimanches, où c'est Jacques qui a le dernier mot, quand il faut prendre une décision et qu'il y a des tensions là à l'interne, qu'il faut régler un problème. Voilà, il y a l'épisode après dans Acte chapitre 12 qui concerne un événement qui est relaté pas seulement dans les Actes des Apôtres, mais c'est la mort de Hérode. Une mort prématurée, où le texte, vous avez peut-être vu ça, ceux qui aiment bien les films un peu gore et autres, vous allez être servis. Il est dit, un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut, rongé par les vers. Ouh là là, qu'est-ce que c'est cette maladie ? Le gars, il meurt et il est rongé de l'intérieur par les vers. Il s'est mis sous une malédiction, il s'est pris pour un dieu, il n'a pas donné gloire à Dieu. Et moi, je crois qu'il y avait beaucoup de prières pour cet homme-là. Hérode était d'une cruauté terrible et en même temps, c'était un mégalo. C'est lui qui a fait construire le temple de Jérusalem, un temple immense. Aujourd'hui, il ne reste qu'une partie de ce temple-là, le mur des Lamentations. Donc déjà, quand on voit le mur des Lamentations, il y a des grosses pierres. C'est lui qui a fait construire ce temple, un truc énorme. Il avait une résidence secondaire qui était fabuleuse. Et il était surtout cruel. Il était capable du meilleur comme du pire, ce Hérode-là. Donc imaginez le Conseil d'État à Genève. Il est très très gentil par rapport à ça, parce que Hérode a fait tuer sa femme et son fils. Donc voilà, autre temps, autre mœurs, comme on dit, mais c'est ce qui s'est passé. Donc les croyants usent de sagesse, mais Dieu a prononcé un jugement. Et je disais, c'est un épisode qui est dans les Actes des Apôtres, qui se retrouve aussi, pour les curieux, dans les archives, des livres de Flavius Joseph, qui est entre guillemets, un historien ou un journaliste de l'époque, voilà, qui était sur place, qui a décrit ces choses-là. Et il décrit cet épisode-là de Hérode qui est rongé par les vers. Donc il y a une attestation là dans d'autres écrits intéressantes. Ensuite, acte 13, on est projeté dans l'église d'Antioche. On n'est plus à Jérusalem. On va un peu au nord et on va dans l'église d'Antioche. Et rappelez-vous, qui a installé cette église d'Antioche ? Qui l'a commencé ? Quelqu'un pourrait me dire ça? Quel apôtre a initié cette église? Non, ce n'est pas Paul. Non, c'est de simples disciples, c'est des anonymes. Paul, on le voit comme un implanteur d'église, mais Paul se convertit à ce moment-là, Saul de Tarse se convertit. Et en fait, quand il y a eu la persécution sous Étienne, dans Actes 7, les croyants ont été dispersés de Jérusalem, tous ces juifs sont partis, ils ont évangélisé, et certains d'entre eux ont eu le courage d'aller jusqu'à Antioche, d'évangéliser d'abord des juifs, et même des non-juifs, parce que ça ne se faisait pas à l'époque. On croyait que le message de l'évangile était que pour les juifs. Mais ils ont le courage et Dieu a béni ce travail. On avait vu ça la dernière fois. Et Antioche, il y a une église qui naît, des chrétiens qui se rassemblent là et qui ne sont pas d'origine juive. D'autres sont là aussi d'origine juive, ça fait un mélange. Parce que les juifs qui se convertissent, certains sont chassés des synagogues. Voilà, c'est comme si vous êtes... habitué à aller au temple à Saint-Pierre, par exemple, et puis on apprend que vous êtes chrétien pentecostiste, vous parlez en langue très fort, dans le temple, là, en plein culte, les pasteurs qui ne savent pas ce que c'est, ils vous mettent dehors. Voilà, bah, du coup, vous allez peut-être évangéliser à Russin, à Dardanie, je ne sais pas où, et puis là, il y a une église qui va naître. Voilà, un petit peu, on schématise, mais c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Il y a un feu dans le cœur des chrétiens anonymes, comme je les appelle, comme de ceux qui sont marqués dans les Écritures. Il y a un feu qui est là. Et dans les versets clés que j'ai notés pour notre texte d'aujourd'hui, il y a le verset 24 du chapitre 12. « Quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. » Chaque chrétien se sent investi et porteur de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent, ces frères et sœurs? Comment ça se fait que leur témoignage est écouté et entendu? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, c'est pour les chrétiens comme pour les apôtres, c'est ce qu'on appelle le kérigme. Le kérigme, c'est un mot grec qui veut dire proclamation. En fait, vous et moi, on est appelés à proclamer, à annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle ne se lit pas comme ça, mais elle se proclame, elle se dit, c'est une affirmation, c'est quelque chose qui est clair. Vous pouvez dire à quelqu'un, écoute, j'aimerais te présenter la bonne nouvelle, etc. Ben, on dit que c'est le Fils de Dieu qui est venu sur terre, qui est mort pour les péchés. Et puis on dit aussi qu'il est ressuscité. Moi, je n'ai pas vu, je ne sais pas. Donc là, vous dites la bonne nouvelle. Mais proclamer la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens 15. Et vous dites, Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour que j'aie la vie éternelle. Est-ce que tu veux rencontrer ce Jésus-là? Moi, je l'ai rencontré. Et voilà ce qu'il fait dans ma vie. Et si vous avez quelqu'un qui est un peu plus spécialiste dans la religion, vous pouvez aller plonger dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, etc. Mais les personnes qui ne connaissent rien du tout, comme on dit, qui ne sont ni d'Ève ni d'Adam, qui ne connaissent rien à la religion, vous pouvez leur dire, ce Jésus-là, moi, je peux t'en parler, je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Et c'est ça le kérigme. C'est en même temps une proclamation de votre foi, puis en même temps une affirmation que c'est une chose qui est réelle. Voilà pourquoi l'évangile a un impact. Et de temps en temps, dans ces actes des apôtres, les actes de la paroisse d'Aunay, eh bien, il y a ces versets clés, la parole de Dieu se répandait. Par qui? Oui, par les apôtres, par les ministères, mais aussi par les anonymes, les croyants anonymes. Et on est tous porteurs de cette mission, tous et toutes. Et surtout par rapport à ça, il ne faut pas se comparer. Si on se compare, ça peut être la mort. Mais moi, je ne serai jamais comme un tel ou comme une telle qui a une telle facilité. Non, mais fais simplement ce que le Seigneur te montre. Ou sois là au bon endroit, au bon moment. Il peut te mettre à cœur, le Saint-Esprit, une simple pensée. Tiens, invite quelqu'un pour prendre un café, fais ceci, fais cela. Voilà, c'est là une possibilité qui est là. Alors, il ne faut pas être il faut un peu se détendre avec l'évangélisation, même si on est en terrain miné. Vous avez peut-être pris des vestes, des revers avec ça. Quelqu'un qui vous a dit, j'en ai rien à battre de ton évangile, garde-le pour toi, etc. Moi, je veux bien qu'on reste amis, mais tu ne me dis rien. Puis après, vous priez par derrière, groupe WhatsApp, 4-4. Et j'ai contact avec quelqu'un, priez pour elle, priez pour lui. Il faut que son cœur s'ouvre, je l'ai vraiment à cœur. Je peux, tout seul, j'arrive pas, j'ai besoin de vous. Voilà, le jeudi soir, on prie aussi, et tout ça, il y a des belles choses. C'est pour ça qu'à Acte 12, on voit que l'Église est en prière, même la nuit. Il y a une intensité de prière qui est là. Et ça, c'est aussi le deuxième mandat de chacun. Premier mandat, évangéliser. Enfin, je dis premier parce que je l'ai cité en premier. Évangéliser. Et puis le deuxième, donc être porteur d'espérance. Le deuxième, être en prière. Et ça, c'est les mandats de l'Église. D'accord ? Tu regardes ton voisin, tu lui dis, tu as deux mandats, tu le savais ? Évangéliser, prier. Et si possible, pas tout seul. Si possible, pas tout seul. Deux mandats. Il faut les prendre à cœur, ces deux mandats. C'est important. On vous casse les pieds dimanche après dimanche avec les annonces. Hein. Il y a la prière. On dit tous les dimanches, il y a la prière jeudi. Venez, venez, venez. C'est bien. Vous êtes là. C'est super. Libérons nos agendas si nécessaire. Mais c'est des priorités personnelles qu'il nous faut avoir. C'est qu'une heure de prière. On n'en est pas encore aux 2 minutes de prière, voire aux nuits de prière. Ça existe. Je ne sais pas si on en fera, on refera plutôt, parce qu'on a eu des périodes comme ça. Mais c'est important, il vaut mieux bien prier ensemble pendant une heure que prier en s'endormant toutes les 10 minutes, puis pas savoir qu'on demande à Dieu. Voilà, on cible la qualité et on prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouais, gloire à Dieu qu'on peut lui prier ensemble, et ça décuple. Une prière quand tu es tout seul, tu peux chasser 10 000 esprits. Si tu es à deux, tu en fais 10 000. À trois, les matheux, ça fait combien ? 100 000 ? C'est ça ? Elle est où, Myriam ? Anne ? Comment ? 1 million ? À trois, on renverse 1 million de démons, etc. C'est exponentiel, voilà. Ça me libère du poids des maths. Des prières exponentielles. Amen ? Et ça, c'est génial. Donc, embarquons-nous dans ces défis, ce que Gilles nous propose. Embarquons-nous là dans la prière du jeudi. Soyons efficaces. Alléluia. Et ça, c'est. Et j'arrive à Actes chapitre 13. Ça va être la clé de le passage clé de mon message ce soir. Si jamais, donc le kérigme, il est dans. Ouais, on peut prendre 1 Corinthiens 15, versets 1 à 8. L'apôtre Paul écrit ce qu'est le kérigme, il résume l'évangile. Voilà, il faut l'approprier. Actes chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des enseignants, et il y en a 5. Barnabas, nous le connaissons déjà, c'est un grand copain de l'apôtre Paul, c'est lui qui l'a présenté aux apôtres de Jérusalem quand il s'est converti. Siméon, appelé le Noir. Pourquoi il est appelé le Noir, Erika, par exemple. Je te nomme parce que tu as un noir très profond. Et on imagine Siméon, voilà, comme ça. Donc il y a Barnabas, on va dire que c'est un basané de couleur. Siméon, qui est Black de chez Black. Ensuite, Lucius de Cyrène. Là, je n'ai pas étudié son personnage, mais si quelqu'un. Cyrène, je me demande si ce n'est pas la Tunisie. Actuel. Il me semble avoir un souvenir comme cela. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas d'Antioche, mais qui est quelqu'un d'Afrique du Nord. Manaen, il a été élevé avec Hérode, le tétrarque. Alors, lui, c'est quelqu'un de la haute, n'est-ce pas ? Hérode, il y a des familles comme ça qui sont appelées à gouverner. C'est pareil à Genève, il y a les familles qui gouvernent depuis tant d'années. Et enfin, qui pèsent, disons, sur la République, sur le canton de Genève. Eh bien là, il y a lui, ce ministère-là, c'est quelqu'un, voilà, qui est, on va dire, un notable, d'accord. Mais quelle différence ! Il y a énormément de différence entre ces 5 ministères. Ils sont pas tous les mêmes, quoi. Puis il y a Saul qui est là. Saul, son prénom, Paul, ça veut dire petit. Petit. Et dans l'histoire de l'Église, quand on voit les gravures de Paul. Il y a du vrai ou pas, je ne sais pas, mais il est chauve et il est petit. Il est petit et il est chauve, comme moi. Je n'ai pas sa stature. Voilà, donc il y a le petit Paul, il y a Siméon, appelé le Noir, on va dire un grand noir, baraqué, basketteur. Il y a Lucius de Cyrène, je crois qu'il est tunisien. Manaen, qui était élevé, qui a toujours des beaux habits, qui est nickel, qui a une montre Rolex, ou autre, etc. Et ces cinq-là, aussi différents soient-ils, Jésus les met ensemble pour bâtir son Église. C'est eux le staff, c'est eux les responsables de cette communauté chrétienne qui sont là. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent ensemble, ils cherchent le Seigneur, ils prient et ils jeûnent ensemble. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit parle. Tout d'un coup, la voix du Seigneur se fait entendre. Comment c'est ? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est Saul de Tarse qui prophétise ? Mais c'est difficile de prophétiser sur soi-même, hein, parce que le Saint-Esprit dit à ce moment-là, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai préparés. » Donc il y a un team qui est là, ils cherchent le Seigneur, et ils ont du temps pour ça. Peut-être qu'ils ont des revenus qui leur sont donnés par l'église d'Antioche, c'est une grande église, et ils prennent du temps pour prier et pour jeûner. Et ils sont à leur place, parce que les responsables sont là pour être en prière et écouter le Seigneur pour les directions, la direction de la communauté. C'est mon rôle, c'est le rôle de l'équipe pastorale ici, d'écouter la voix du Saint-Esprit. Dieu parle à eux. Bien sûr, Dieu peut parler par n'importe qui, dans la paroisse, dans l'église, mais eux, ils ont reçu quelque chose pour ça. Et qu'est-ce que Dieu leur dit au travers du Saint-Esprit ? Il y a une nouvelle étape pour le ministère de Barnabas et de Saul. Il y a un envoi. Et c'est là que commence le ministère d'implantation d'église de Saul et de Barnabas. Et c'est à partir de là. Et ils ont dû réunir l'église à un moment donné pour communiquer cela. Voilà, le Seigneur a parlé. Et il nous faut libérer Barnabas et Saul. On ne sera plus que trois dans l'équipe pour diriger l'église. Il faut des remplaçants. Le Seigneur sait. Et on va les envoyer. Et il y a un envoi, il y a une reconnaissance, disons, de l'appel de Dieu sur Barnabas et Saul. Et ils sont envoyés par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de leçons importantes dans ce texte. D'abord, c'est important qu'on pense équipe, qu'on pense team, qu'on pense équipe. C'est vraiment dans la pensée de Christ. Jésus, il a commencé son ministère tout seul, il fallait faire comme ça. Assez rapidement, il a choisi des disciples. Il les choisit 1, 2, 3, jusqu'à 12. C'est ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau. Ils ont un ministère particulier et on voit certains leur parcours après. Il les choisit. Mais après, ils sont 70 et il les envoie par deux. Donc il y a toujours la pensée, la notion d'équipe ou de duo qui est là. Et puis après, il y en a d'autres qui se rajoutent, voilà, des disciples, il y a la foule ensuite. Mais sur le cœur du Seigneur, soit pour à l'intérieur de l'Église, soit pour l'extérieur, il faut penser équipe. Alors vous allez me dire, ouais, mais Saul de Tarse, il est vachement solitaire. Moi, je vous défie de trouver... Enfin, il y a un passage où on le voit solitaire après sa conversion. Hein. Il n'y a qu'un passage, c'est quand il part pour Athènes pour aller évangéliser. Il a besoin de marcher, il a besoin peut-être de prendre de temps de prière, mais la plupart du temps, à part ce passage-là, il est toujours en équipe. Et la preuve, donc Actes chapitre 13, verset 13, facile à retenir, Paul et ses compagnons, et on voit souvent ça. À un moment donné, c'est Luc qui rejoint l'équipe, le médecin, celui qui a écrit les Actes. Nous voguons, nous allons vers tel endroit, toujours en équipe. Personne n'est solitaire dans ces équipes-là. Et vraiment, être en équipe, c'est vraiment important. Et depuis quelque temps, dans la paroisse, vous avez certainement remarqué, on parle équipe, on parle fonctionnement. Il y a une belle équipe de ministère de l'enfance. Là, quand je les ai tous vus tout à l'heure, je me dis, ouais, il y a une super équipe qui est là, c'est génial. Équipe qui sert les enfants et qui sert l'Église. Équipe, espace de guérison, c'est une équipe. Ça a commencé, il y avait trois, maintenant on est cinq. Voilà, cinq, toujours équipe, jamais de cavalier seul. Où c'est extrêmement rare. Alors on voit des ministères qui sont un peu solitaires. Il y a Philippe l'évangéliste, mais lui c'est un évangéliste. Il est transporté par l'Esprit Saint à un endroit particulier. Voilà, il va aller vers le char, la voiture de l'eunuque éthiopien. Mais c'est plutôt rare comme ça, où il va évangéliser. C'est des pionniers qui sont comme ça. Mais dans le travail, dans la paroisse, l'esprit de service, il doit être en équipe, d'accord ? Tu regardes ton voisin et tu lui dis « Je ne ferai jamais ou plus jamais cavalier seul. » Yes ! Et ça induit la notion de redevabilité. Quand on est en équipe comme ça, c'est génial. L'équipe pastorale, par exemple, qui est composée de Teresa, Carlos, Catherine et moi, Vili et Monique, voilà, Vili a démissionné maintenant, Monique est encore là, eh bien, on est intime et je leur suis redevable et ils me sont redevables. Mais comme c'est marqué dans notre fonctionnement des autorités fédérales, il y en a un qui est premier, mais premier parmi les égaux. Hein, primus, je ne sais pas quoi, la phrase en latin là, qu'il y a pour le Conseil fédéral, premier parmi les semblables. Parce que, par exemple, à Jérusalem, je vous ai dit, c'est Jacques qui est le responsable des apôtres. C'est lui le premier qui est là. Il n'est pas supérieur dans le sens qu'il a plus de valeur que les autres, mais il reçoit de Dieu voilà, le mandat de superviser, de recevoir la vision particulière pour l'Église de Jérusalem. Et il a une parole d'autorité qui est là. Et c'est ça qui est génial. On est égaux dans les équipes en valeur. On est tous différents, comme dans Acte 13. Il y a un grand noir, il y a un petit teigneux. Il y a un Barnabas qui est toujours encouragé les autres. Il y a un Tunisien, je ne sais pas quelle est sa qualité. Et puis voilà, et Dieu fait que les équipes, ça fonctionne. Des fois, on aimerait dire, mais ah, ça serait bien qu'on soit un peu tous les mêmes, soyez tous comme moi, et ça ira beaucoup mieux. Pas du tout. On va stagner, on va se jalouser, on va être compétition, dans la compétition, ça n'ira pas, puis on n'ira que dans un sens. Ce n'est pas possible. Et le Seigneur Jésus, dans sa sagesse, il fait que les équipes, elles soient vraiment différentes des fois, mais vraiment très différentes. Pourquoi ? Parce qu'il y a le principe de complémentarité, et c'est ça qui est super. Dans l'équipe pastorale, Teresa, elle a un feu pour le Seigneur et pour la sanctification. Carlos, il est là, il est stable, il voit les choses à l'avance. Catherine, elle a aussi pieds sur terre. Moi, j'ai la tête en l'air et les pieds avec aussi des fois, etc. Les différences sont là, on a tous des caractéristiques différentes et c'est ça qui est génial. Il y a l'équipe d'enfance, il y a l'équipe de louange, il y a l'équipe d'accueil, etc., etc. Il y a différents noms, je vais vous les nommer, ces équipes qui sont actuellement, et puis il y en a d'autres qui doivent naître. Dans les équipes, et aussi dans les généralités, les équipes, elles participent à la mission particulière que le Seigneur nous donne ici à Aunay, dans la paroisse d'Aunay. Il y a la mission globale, je vous l'ai dit, la prière, l'évangélisation. Ça, c'est global. Toutes les églises du monde doivent faire ça. Voilà. Puis il y a la spécificité qu'on a. On est une église qui tend vers une adoration profonde. C'est pour ça qu'il y a dans la louange, il y a des bannières. Il n'y a pas tout ça dans toutes les églises, mais il y a quelque chose de particulier qui est là. L'onction est là pour ces choses-là. Il faudra enseigner là-dessus un jour. Il y a l'éducation des enfants, éducation chrétienne. On est intimement lié avec l'école chrétienne Timothée. Ça fait, spirituellement, on est un, même si c'est deux entités différentes aux yeux de l'État, mais spirituellement, l'école Timothée est soutenue, née à quelque part grâce à la paroisse d'Aunay. Et c'est pour ça qu'il y a une bonne équipe de moniteurs aussi qui est là, donc inviter des familles, ça c'est important. Et puis, il y a l'importance de la diffusion de la parole de Dieu. On est porteur de la parole de Dieu, c'est propre aussi à mon ministère où j'enseigne. Je veux faire plus de vidéos, idéalement j'aimerais écrire, voilà, enfin j'ai déjà commencé un petit peu. Et cette parole de Dieu, elle est là, elle nous est chère et il faut pouvoir la diffuser. Adoration, éducation, diffusion. Ça, c'est ce qui est spécifique à la paroisse. Et donc, toutes les équipes qui sont là, qui existent, elles contribuent à ce que le ministère d'Aunay, le ministère de Christ à Aunay, il puisse grandir, s'épanouir, se développer. Il y a l'équipe pastorale, c'est elle qui est la référence. Ensuite, il y a l'équipe des soins pastoraux qui s'est nouvellement constituée. Ce n'est pas un ordre d'importance, hein, ce que je dis là. Il y a l'équipe de louange qui est là. Ça rejoint directement l'adoration. La responsable, c'est Anne, qui est soutenue par Catherine. C'est juste hein, ce que je dis. Ouais. Dans l'équipe pastorale, je suis le premier parmi les égaux, parmi mes semblables, pardon. Premier parmi les égaux, c'était terrible cette phrase-là. Il y a une équipe d'enfance que vous avez vue, il y a l'espace guérison aussi. Et ça, c'est des équipes qui sont directement orientées pour le ministère. Il faudrait aussi une équipe d'évangélisation, je trouve. Ça manque un peu, il faut être équilibré. Et je pense là, il y aura peut-être quelque chose qui va se constituer à l'avenir, à voir. Et puis, il y a les équipes qui sont plus du soutien à ce ministère. Il y a l'équipe qu'on appelle conseil, administrative, avec le trésorier, le futur président et la secrétaire. Même si les postes sont vacants, certains postes, bien sûr. Mais l'équipe, elle soutient tout ça. On pourrait dire, ouais, mais il n'y a qu'à faire des offrandes et puis ça va tourner. Non, mais il faut gérer l'argent, vous êtes d'accord? Il faut un comptable, j'ai un salaire, il y a les charges sociales à payer, etc. Si on enlève ça, ça ne tourne pas. Donc cette équipe, elle est importante et il faut en prendre, faut en saisir l'importance. Il y a la visite aussi qui est dirigée par Elisabeth Gottschmann. Il y a une équipe qui s'occupe du planning, qui organise les plannings des cultes. Voilà, et je suis avec cette équipe-là, je cherche la face du Seigneur. Admettons, comment ça s'est passé? Comment ça se fait qu'on a les cultes du dimanche avec les actes des apôtres? Je me suis mis devant le Seigneur et cette pensée, elle est venue dans mon cœur. J'avais un temps à part, comme ça, actes des apôtres. J'étais 3 jours sur la montagne. Voilà, j'ai soumis cette pensée à l'équipe pastorale. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais aller de l'avant avec les actes des apôtres. Ils ont donné le feu vert, c'est bon. Vous vous rappelez, on a fait comme ça à la rentrée. Et puis après, l'équipe planning, je leur ai dit, voilà, on va partir sur les actes des apôtres, en tout cas jusqu'à Noël. Ah, comment est-ce qu'on fait? Ben, Laurent, tu prêches... moi, j'ai proposé de prêcher 3 fois par mois. Et puis, le 4e ou le 5e, on a soit quelqu'un de la paroisse, soit un invité qui est là. On met l'accent là-dessus. Donc, voyez comment ça a fonctionné. Le Seigneur m'a confié quelque chose. Je l'ai soumis à l'équipe pastorale. Est-ce que ce que j'ai reçu, c'est bien du Seigneur? Ils ont mis le stempel, le tampon. Et c'est bon, et on va là-dedans. Voilà, ça fonctionne comme ça. On n'a pas fait cavalier seul. Je n'ai pas dit, OK, tout le monde, les actes, voilà. Mais je suis passé par là. Moi-même, je suis redevable envers cette équipe et puis envers mes semblables de l'Église libre, mes autres pasteurs, mes collègues pasteurs. Dans les autres équipes, il y a l'équipe planning, l'équipe accueil, qui n'a pas pour l'instant un responsable, mais il faudrait qu'il y en ait un. Et puis, il y a une équipe qui doit se former, c'est l'équipe communication, et je la fais un peu à moi tout seul. Et je la fais mal, parce que qui trop embrasse, mal étreint. Certains peuvent dire, ouais, mais pourquoi on n'est pas très présent sur Facebook, sur YouTube et tout ça? C'est moi qui m'en occupe, et j'ai que 2 bras et une tête. Donc il faut que des jeunes puissent se lever, ou des moins jeunes, qui sont à l'aise avec les réseaux sociaux. Il y a une communication qui est à faire, importante, et à l'interne aussi. Communication à l'interne, certains ont dit, ouais, on ne communique pas bien dans cette église, je ne communique pas bien. Oui, mais je manque d'aide par rapport à ça, ou l'équipe pastorale manque d'aide. Le poste de secrétaire, c'est une partie de cette communication qui doit être pourvue. Comment ça fonctionne, les équipes? On le voit dans Acte 13. Écoutez Dieu, principal mandat de l'équipe pastorale, mais aussi dans l'équipe d'accueil, par exemple, ou dans l'enfance. C'est important d'écouter Dieu. Quel programme on peut utiliser? Alors, le Seigneur pourrait me parler en disant, tu dis, allez au moniteur, ceci, cela, mais je crois que Dieu veut leur parler. Dieu veut parler à Eunice, Dieu veut parler aux autres moniteurs. Il y a des choses à capter. Puis après, ils agissent en soumission à l'équipe pastorale. S'ils disent, je crois qu'il nous semble que c'est bien qu'on parle aux enfants, peut-être avec telle leçon, alors on regarde un petit peu. Le support, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça dit que le baptême du Saint-Esprit est pour les enfants ou est-ce qu'il dit non, c'est pas pour les enfants? Là, on va mettre de côté ça, vous êtes d'accord, hein? On respecte une ligne à laquelle on croit. Donc on agit comme ça. Les équipes, le responsable de chaque équipe, est-ce que vous pourriez vous lever, les responsables qui sont déjà en place? Je n'ai pas parlé de la technique, mais il y a Yves Alain pour la technique. Samuel, levez-vous, comme ça on peut vous voir, s'il vous plaît. Donc Yves Alain pour ce qui est sonorisation, le son et un peu l'image. Samuel pour ce qui est beamer, donc projection des chants, il a une équipe avec lui. Anne pour la louange. Quels autres responsables sont là ce soir? Je regarde. Voilà, poste vacant pour l'enfance. Eunice ne veut pas reprendre le leadership qui était assumé par Carla, donc il y a besoin là, que quelqu'un se lève à ce niveau-là. Voilà, et les autres équipes que j'ai mentionnées ici. Alors, il y a des équipes qui sont fortes et d'autres qui ont besoin de se fortifier pour aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez ce mandat que Dieu nous donne? et les équipes qui sont là, qui soutiennent ce que Dieu veut faire à Onet. Et chacun a sa place. Chacun a sa place. Il faut se poser la question, où est, Seigneur, ma place? Qu'est-ce que je dois faire dans la communauté? Parce qu'on est une communauté de service. Peut-être c'est dans la louange, alors il faut regarder avec Anne. Peut-être c'est plus dans le diaconat, dans le service. Peut-être c'est plus en lien avec les bâtiments, etc. Voilà, il y a plein de services qui existent. Quelle est la responsabilité des leaders? Je reviens à ça. Le leader donne la direction. Le Seigneur veut me parler pour la direction de la communauté, pour la direction de l'équipe pastorale. Je veux recevoir de lui la direction. Et ça, c'est important. Ça, c'est mon premier rôle. Seigneur, qu'est-ce que tu dis à la paroisse? C'est souvent ma prière. Dans quoi faut-il aller? Dans l'équipe pastorale qui est là, c'est important que les leaders soient vrais, que je sois vrai avec eux. Et dans chaque équipe, il faut être vrai. Ça, c'est important. Être vrai et honnête avec les uns, avec les autres. C'est important qu'il y ait une stratégie qui soit là dans chaque équipe. On n'est pas là dans chaque équipe pour dire ben, on fait les choses par routine. Alors oui, ben, l'accueil, il s'agit d'accueillir, de tendre la main. Enfin, si on peut maintenant, il faudra bientôt penser à ça. Mais voilà, on accueille. Mais peut-être il y a un plus à savoir pour l'équipe d'accueil. Voilà, comment bien accueillir les personnes? Est-ce qu'il faut mettre des badges? Est-ce qu'il faut mettre, je ne sais pas, un t-shirt? Qu'est-ce qu'il faut voilà, vous voyez, améliorer la chose. Et quand il y a une vie dans l'équipe, c'est génial. On a envie de participer à cette équipe-là. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que chaque membre de l'équipe, il a sa place. Il n'y a pas seulement le leader qui reçoit et qui communique à l'équipe, mais les membres de l'équipe disent « Hey, et si on faisait ça? Il me semble que j'ai à cœur ça. » Puis le leader, il va sentir dans son cœur si c'est la pensée de Dieu ou pas. Ça m'est arrivé de dire « Écoute, non à ta proposition. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas le feu vert dans mon cœur. » Ça, il faut l'accepter. Peut-être c'est une pensée de Dieu, mais elle n'est pas pour maintenant. Je n'ai pas le feu vert à l'intérieur. Peut-être ce n'est pas une pensée de Dieu. Des fois, on dit il y a les « God ideas » et puis il y a les « good ideas ». Avoir une bonne idée, ce n'est pas forcément la pensée du Saint-Esprit. Il nous faut la pensée de Christ, la pensée de Dieu. Et ça, c'est important. Ça, c'est les leaders et le fonctionnement en équipe. Quand il y a un projet qui est là, c'est important que le leader de l'équipe, ils disent, voilà, il me semble que, par exemple, pour l'accueil, il faut aller dans cette direction-là, qu'on mette l'accent, peut-être pour ceci, cela. Il en parle à son équipe. Et peut-être il y a une personne de l'équipe, là, qui a une idée. Qui recueille l'idée, qui dit « Moi, il me semble, je dis ça comme ça, hein, ce n'est pas une pensée de Dieu, il me semble que ça serait bien que tous les dimanches, les personnes à l'accueil, elles soient habillées de la même couleur. » Je dis ça comme ça. Comme ça, on les repère et on sait que c'est les personnes accueillantes et puis c'est une couleur chaleureuse. Et bien, le leader, il va dire « Ok. » Enfin, il en réfère à l'équipe pastorale. Et ensuite, le leader, s'il a le feu vert, il dit « Ok, et je te mandate pour ça. » C'est toi qui as cette idée-là, je te mandate pour ça. Réfléchis-y, peut-être à deux ou trois, puis tu me retournes ce projet-là. Et moi, j'en reparlerai à l'équipe pastorale. Donc, ça fait un va-et-vient. Et puis, il y aura peut-être un budget qui sera libéré pour ça. Vous voyez l'histoire, là. Alors, peut-être, on peut dire, ouais, mais c'est un peu lourd, il faut une légèreté. Non, ça peut être très léger. Ça peut être tout simple. Ça se fait simplement, et puis il y a une vie qui est là. Et moi, je souhaite qu'il y ait une vie dans ces équipes, et ça soit dynamique et encourageant. Quel est le rôle aussi des membres de l'équipe? C'est vous protéger le leader. Anne, qui est responsable de la louange, les autres, vous la protégez. Elle a reçu une onction pour diriger l'équipe louange. Elle est peut-être fatiguée, alors il faut l'entourer. Et c'est l'histoire de Moïse qui est entouré par Aaron et Hur. Combien je bénis Dieu de ce que parfois l'équipe pastorale a pris mes bras et puis m'a soutenu dans la prière avec Thérèse et d'autres personnes. Et là, quand j'étais pas bien, il n'y a pas très longtemps, j'étais pas bien, mais ils m'ont soutenu. Ils ont dit, là, tu as besoin de soutien, on est avec toi. Merci pour les prières. Là, vous soutenez le leader, et ça, c'est précieux, quoi. Gilles qui se lance, je te prends pour exemple. Gilles fait beaucoup, il commence à faire beaucoup. Bien, il faut qu'il soit soutenu dans l'équipe ou les équipes où il est. Ça, c'est important. On voit dans la parole de Dieu, Moïse, ils ont essayé de le faire tomber, quoi, décorer, etc. Dieu a jugé ça. Dieu a juste ça. Il faut respecter l'onction qui est sur la personne. On peut discuter avec la personne. Enfin, vous pouvez discuter avec moi. Je crois pas que je. Enfin, j'espère ne mordre personne, comme dirait Michel. Non, j'ai encore mordu personne, pardon. Eh bien, voilà, il faut discuter, et puis, mais respecter l'onction qui est sur la personne. Ça, c'est important. Respecter ce que Dieu a mis sur Anne, sur voilà, le futur responsable de l'école du dimanche, etc. Un leader est visionnaire. Et puis, on est là, dans chaque équipe, pour accomplir la vision que Dieu donne. On est là dans un sentiment de redevabilité, et ça, c'est super important. On est dans une société aujourd'hui qui est tellement individualiste. Ouais, je viens à l'église un peu comme au supermarché, je choisis quelle église je veux, quel prédicateur je veux. Ça, c'est des marques de manque de maturité. Ça va quand on est jeune chrétien, mais après, il faut grandir. Seigneur, où est-ce que tu me veux? Où est ma famille spirituelle? À qui je suis redevable? Qui a le droit de parler dans ma vie? Au nom du Seigneur, j'entends, hein, on n'est pas là pour se contrôler les uns les autres, mais de manière inspirée. Et ça, c'est vraiment important. Plus l'Église va progresser, plus elle va accueillir des personnes, moins je serai spécialiste, personnellement. Je dois avoir la supervision sur l'ensemble des équipes qui sont en train de se former. Donc je ne pourrai plus faire les zooms comme je fais des fois le dimanche, une fois sur deux ou sur trois. Il faut que quelqu'un puisse prendre cette place-là. Elle est ouverte, hein, si jamais je lance l'appel. Moins je serai spécialiste de quelque chose, mais je serai plus généraliste. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas connaître l'enfance, pas être au courant de ce qui se passe, etc. Mais je vais être généraliste avec le regard du Seigneur et avec l'équipe pastorale. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Oui. Est-ce que ça touche votre cœur? Parce que c'est le cœur de Acte 13 qui est là. Et envoyé par le Saint-Esprit, le ministère de Saul et de Barnabas, il a explosé à ce moment-là. Avant, ils étaient en aide, en soutien, ils faisaient beaucoup, Dieu a béni leur ministère, mais c'est vraiment là que ça a pris de son ampleur, tant pour Barnabas que pour Saul de Tarse. Mais après, ils se sont un petit peu chipotés parce qu'ils sont humains, mais on ne va pas se disputer dans les équipes, hein, on est d'accord. On fera attention, putain. On mettra quelques lignes, quelques barrières par rapport à cela. Mais c'est important. Qui le Seigneur choisit comme responsable? Ça, c'est important. On nomme pas des gens, l'équipe pastorale nomme pas des gens parce que c'est le fruit du hasard ou parce qu'elle a une bonne tête ou parce qu'il est sympa, mais parce que Dieu appelle. Parce que Dieu appelle. Les cinq de l'équipe d'Antioche, Dieu les a appelés. Barnabas, Siméon, Lucius, Manaen, lequel il me manque, je ne sais plus, et Saul de Tarse. Ils ont été choisis par Dieu. Dieu les a élevés. Et souvent, j'ai vu Dieu faire comme cela. Tout d'un coup, il y a une personne qui se met en disponibilité, qui veut servir le Seigneur, et qui, voilà, la personne, le Seigneur va l'élever. Si elle est humble, elle va être élevée comme ça. Il faut accepter ça. Ah non, pas elle, Seigneur, pas lui. Mais ben, il faut l'accepter. S'il n'y a pas de reconnaissance de l'ensemble de l'Église, s'il n'y a pas d'envoi, alors que le Seigneur appelle, qu'est-ce qui se passe des fois? Eh bien, le ministère appelé va partir dans une autre communauté. Ben oui, parce que si on ne peut pas servir là, alors que c'est notre place, il y a quelque chose qui ne voilà, qui va pas. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais ce qu'on veut, c'est porter du fruit, c'est aller de l'avant, et le système des équipes, là, le Seigneur le donne, pour qu'on puisse s'épanouir là aussi et que la communauté s'épanouisse. Amen. Est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous dites oui, Seigneur? Oh, Seigneur, j'ai encore besoin de réfléchir. Chacun a sa place dans une équipe. Certains sont dans plusieurs équipes dans la communauté ici. Alors, il faudrait que vous soyez dans une équipe, voire deux. Mais certains, ils en ont trois. Ils ont un tel esprit de service, et je suis très reconnaissant pour ça. Mais il faut voir quelle est votre place vraiment. Il y a je ne parle pas des anciens, hein, de l'équipe pastorale, ils ont des fois plusieurs tâches. Mais ceux qui sont, on va dire, les paroissiens, un service et s'attacher à son service, c'est bien. Deux, c'est génial. Peut-être que vous êtes retraité, vous avez du temps en ce moment. Et puis trois, ben voilà, il faut que ça soit selon le Seigneur. De plus en plus et de mieux en mieux. Moi, j'aimerais bien que si vous êtes déjà dans une équipe, vous puissiez maintenant rejoindre votre leader. Ou alors, vous formez l'équipe, là, maintenant, vous formez l'équipe, même s'il n'y a pas encore de leader. Alors, ceux qui sont, et vous prenez votre service principal. Donc, ceux qui sont dans la louange, vous allez auprès de Anne, qui est là, au fond. Oui.
Je partageais ça à Catherine l'autre jour, et puis je crois que ça tombe bien que elle m'a dit, mais partage ça une fois à l'église, alors je vous le partage. À l'école biblique, quand on était avec Laurent, j'ai vraiment compris quelque chose. C'est, on était responsable de secteur. Tous, on avait des tâches, pas forcément responsable, on avait des tâches dans l'école. Ça pouvait être ranger la cuisine après les repas, ça pouvait être dans la louange, ça pouvait être pour le groupe de femmes, ça pouvait être plein de choses différentes. Et puis, moi, un temps, j'étais responsable pour donner des cours d'orthographe pour certains élèves qui avaient de la peine, pour vous dire un petit peu le cadre. Et j'ai réalisé, j'ai vraiment eu un déclic par rapport à quelque chose, c'est que je peux être soumise à quelqu'un qui est mon responsable, et dans un autre cadre, cette autre personne, ben, elle va être soumise, entre guillemets, c'est pas, vous comprenez le mot, c'est pas que je veux qu'elle soit soumise à moi et tout ça, mais je lui suis redevable. Et je vais vous donner un exemple, j'avais une responsabilité dans la louange, et puis il y avait un gars qui était dans mon équipe, et puis il était sous ma responsabilité. Et puis dans un autre cadre, lui était responsable de la cuisine, et moi j'avais aussi une place pour ranger toute la cuisine, nettoyer toutes les cuisines après les repas, et c'était lui qui était mon responsable, j'étais redevable envers lui par rapport à ça. Et j'ai saisi vraiment à ce moment-là le fait d'être soumis les uns aux autres, ce que ça voulait dire. Dans ce cadre-là, je peux très bien dire, ben, c'est toi qui dirige l'équipe, qu'est-ce que je dois faire, ben, va laver les plats qui sont là-bas, ok, je le fais. Puis dans un autre cadre, c'était lui qui suivait ce que je disais. Et je crois que ça doit devenir naturel pour nous de dire, c'est pas une question de je suis plus que, ou je suis tout ça, mais dans un cadre, en tant que directrice aussi, par exemple à l'école, si j'ai donné la responsabilité à quelqu'un, je peux très bien aller et puis lui dire, là c'est toi qui vas, ben, je te suis, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il faut qu'on oublie l'histoire de hiérarchie et tout ça, mais de se dire on est tous à des endroits différents pour la gloire de Dieu, et on peut vraiment fonctionner comme ça. Voilà, c'était juste ça.
Ouais, génial. Merci beaucoup. Alors, ceux qui sont déjà dans une équipe, est-ce que vous pouvez rejoindre votre responsable ? Donc, il y a l'équipe avec Yves Alain sur la technique. L'équipe des cultes, par exemple, avec Samuel. Voilà. Donc, vous allez vers votre service principal, ceux qui ont plusieurs services. Voilà. Très bien. Les moniteurs, vous pouvez aller ensemble aussi. On a déjà prié pour vous tout à l'heure, hein, donc c'était bon. Voilà. Et puis l'équipe, les membres de l'équipe pastorale, vous pouvez peut-être venir devant, là. On sera ensemble. Ouais, Catherine, elle a plusieurs cartes. Mais je crois, viens seulement devant, Catherine, avec l'équipe pastorale. Je crois que c'est bien. Voilà, Carlos aussi, merci. Monique, voilà. Comment ? Ah, elle s'en va, oui. D'accord, ouais, ok. Très bien, super. Donc Aurélien est pas... Oui ? Ben justement, il n'existe pas encore. L'équipe existe. Ah oui, l'équipe d'accueil, voilà, avec Sylvie et Caroline. Très bien. Ah oui, il y a Erika aussi, ouais. Et Hélène. Ouais. Hélène, non, je crois pas. Non. Voilà. Très bien. Super. Donc on a l'équipe louange qui est là, l'équipe d'accueil qui est au fond, avec Marie-France. Ensuite, l'équipe pastorale qui est là. Peut-être que Samuel et, si vous êtes d'accord, Samuel et Yves-Alain, vous pouvez être ensemble. Voilà. Et il y a les enfants, c'est génial. Les soins pastoraux, voilà, très bien. OK. Est-ce qu'on est à peu près bon ? D'accord, très bien. Thérèse, elle est dans les soins pastoraux. Elisabeth. Ah, d'accord. Oui, mais... Plusieurs casquettes, voilà. Choisis. Voilà. Très bien. Les enfants, vous prenez le train en route, c'est très bien que vous soyez là. Ok. Voilà. Donc, encore une fois, comme Anne l'a dit, ce n'est pas une question de valeur. On a tous la même valeur. Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Il a payé le prix pour cela, etc. Mais il y a des responsabilités différentes. Voilà. Et dans les équipes où il n'y a pas encore de responsable, vous allez faire comme si vous allez prier pour le responsable. Peut-être même qu'il est au milieu de vous et qu'il doit germer. Mais voilà ce qu'on va faire. On va prendre un temps de prière et puis j'aimerais que vous puissiez prier pour votre responsable dans un premier temps. D'accord ? Voilà, vous priez pour lui et puis vous demandez que l'onction de Dieu grandisse sur elle ou sur lui. Les autres personnes qui n'ont pas de responsabilité, peut-être qui n'ont pas d'engagement pour l'instant, peut-être que dites, ah tiens, moi j'aurais une sensibilité pour l'accueil, une sensibilité pour la louange, etc. Ben vous rejoignez un groupe. Vous rejoignez un groupe. C'est peut-être pas là que vous serez intégré, peut-être pas du tout. Et si vous êtes visiteur, ben voilà, on ne veut pas vous mettre dans une case. Mais vous rejoignez quand même un groupe, parce qu'il y a le groupe qui a besoin de votre prière. D'accord ? Oui ? Très bien. Voilà, on peut bouger. Carole, tu veux aller où ? Carole ? Tu veux aller où ? Tu veux aller où ? Dans quelle équipe tu veux te joindre pour la prière ? Tu choisis ? Tu as le choix. À voir. Donc voilà, sentez-vous interpellé par ça. Et maintenant, on prend quelques minutes, on prie pour le ou la responsable. Et s'il n'existe pas encore, voilà, vous imaginez qu'il est avec vous et vous le bénissez. Et vous l'appelez par la foi au nom du Seigneur Jésus. Just to be. Je vous propose dans la suite, vous continuez vos prières. En fait, je vous propose que maintenant, vous puissiez prendre un temps de discussion. Dès que vous avez fini votre prière, vous discutez entre vous peut-être des besoins, vous discutez peut-être de choses que vous aimeriez faire, comment vous voyez votre équipe. Voilà, discussion ouverte liée au fonctionnement de votre équipe. C'est clair ? laisse terminer toi.
Voilà, nous vous invitons tranquillement à reprendre vos places pour continuer et terminer le culte. Nous allons prendre maintenant un temps de Sainte-Cène ensemble. J'espère que vous avez vos godets avec vous. Je vous lis simplement le passage qu'on trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 28 sans les commenter. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. C'est l'apôtre Paul qui parle. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà, donc je vous invite à prendre la scène maintenant. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous qu'il est toujours important de s'examiner soi-même et ensuite pouvoir communier. Voilà, que le Seigneur vous bénisse dans ce temps. Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, ton sacrifice ultime a été efficace à 100%. Quand tu étais sur la croix, tu as dit « Tout est accompli ». Et aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de ta mort et aussi de ta résurrection. Merci pour ton sang qui a coulé, merci pour ta vie livrée. Merci parce que tu as pris nos péchés. Seigneur, nous sommes libres maintenant et nous pouvons vraiment... être reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour nous. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Voilà donc le temps des offrandes. Il y a un grand panier qui est devant nous. Et je vous rappelle juste ces versets que nous trouvons dans 2 Corinthiens, chapitre 9, les versets 7 et 8, où il nous est dit que chacun donne ce qu'il aura décidé dans son cœur, sans regret,